Chapitre 18. La ville de Givre. Je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine. Nicolas de Staël. 1. Dès 7 heures du matin, Madeleine avait fait le pied de grue devant l'agence Fast Car à l'intersection de Ganzevoort et de Greenwich Street. Elle s'était dit que louer une voiture serait une simple formalité aux États-Unis. Mais comme elle n'avait pas fait de réservation sur Internet, elle endura des démarches interminables et dut remplir des formulaires à rallonge, debout dans une salle glaciale, sous l'œil d'un employé détestable, un certain Mike, qui pensait davantage à chatter avec ses copains sur son téléphone portable qu'à trouver une solution à son problème. Même à New York, l'air du client roi semblait révolu. Le choix de véhicule se limitait à une petite Spark écologique, un SUV Subaru et un pick-up Chevrolet Silverado. « Je vais prendre la Spark », indiqua Madeleine. « Autant éviter de s'encombrer d'un truc énorme. »« En fait, il ne reste que le pick-up », répondit Mike en consultant l'ordinateur.
« Vous venez de me dire le contraire. »«
Ouais, j'avais mal regardé », rétorqua-t-il en mâchonnant son stylo. « Les autres sont déjà réservés. » Résignée, elle lui tendit sa carte de crédit. De toute façon, elle aurait même accepté un smirmorque. Une fois les clés du pick-up récupérées, elle se familiarisa sur quelques blocs avec la conduite du mastodonte et s'engagea sur la voie autoroutière qui, au niveau de Tribeca, reliait Manhattan au New Jersey. Pour un samedi 24 décembre, la circulation était plutôt fluide. En moins d'un quart d'heure, elle avait rejoint l'autre rive et trouvé une place dans le parking du terminal des ferries. Madeleine n'était jamais venue à Hoboken. Lorsqu'elle sortit du parc de stationnement, elle fut saisie par la beauté du paysage. Les berges de l'Hudson offraient un panorama époustouflant de Manhattan. La réverbération du soleil sur les gratte-ciel donnait à la skyline un aspect irréel, enluminant les immeubles, faisant ressortir d'infimes détails à la manière des peintures hyper-réalistes de Richard Haste, qui figeaient la réalité dans une profusion de reflets mordorés. Sur une centaine de mètres, elle parcourut la longue promenade en bois, ponctuée d'espaces verts, qui faisait face à la High Line et à Greenwich Village. Le point de vue était grisant. Il suffisait de tourner la tête vers le sud pour apercevoir un pan d'histoire américaine. La silhouette vert de gris d'une liberté éclairant le monde. Une île minuscule sur laquelle avaient transité les ancêtres de 100 millions d'habitants du pays. L'endroit devait d'ordinaire être envahi par les cyclistes et les joggeurs, mais ce matin, le froid polaire avait dissuadé la plupart d'entre eux. Madeleine s'assit sur l'un des bancs du boardwalk, releva la capuche de sa parka pour se protéger du souffle glacé qui montait de l'Hudson et enfouit les mains dans ses poches. Le froid était si vif qu'il piquait les yeux. Une larme brûlante coula même sur sa joue, mais elle ne trahissait ni tristesse ni abattement. Bien au contraire. C'était terrible à dire, mais la perspective d'enquêter sur le roi des Aulnes l'avait ragaillardie. Voilà l'étincelle qu'elle attendait depuis le début, celle qui avait réveillé son instinct de chasseuse. Même si cela la consternait, c'était pourtant bien ce qu'elle était, au plus profond d'elle-même. Elle l'avait toujours su. On échappe difficilement à sa véritable nature. Par exemple, au-delà des apparences, Gaspard Coutances était un grand affectif, un misanthrope qui prétendait détester l'humanité, mais qui aimait plutôt les gens et qui n'avait pas été long à se sentir bouleversé par l'histoire d'un père brisé par la mort de son fils. Elle, Madeleine, n'était pas faite de ce bois-là. Ce n'était pas une sentimentale. C'était une traqueuse de gros gibier. Du sang noir coulait dans ses veines. Un torrent de lave en fusion se déchaînait sans répit dans son crâne. Un magma impossible à refroidir ou à canaliser. Ce qu'elle avait raconté à Coutances n'était pas un mensonge. Traquer des tueurs ruinait votre vie. Mais pas pour les raisons que l'on avance généralement. Traquer des assassins vous dévaste, car cela vous fait prendre conscience que vous êtes un assassin, vous aussi. Et que vous aimez ça. C'était cela qui était vraiment perturbant. Celui qui combat des monstres doit prendre garde de devenir monstre lui-même. La maxime nietzschéenne paraissait éculée. Pourtant, son constat rebattu était juste. Tant que durait la traque, vous n'étiez pas très différent de celui que vous poursuiviez. et cette conclusion donnait un goût amer à toutes les victoires. Même quand vous pensiez l'avoir vaincu, le mal restait en germe, en vous. Post coitum triste. Elle prit un grand bol d'air glacial pour se calmer. Il fallait qu'elle redescende de plusieurs crans. Sois réaliste, ma petite. Tu ne vas pas résoudre toute seule une affaire qui a usé les nerfs de tous les profilers du pays. Mais quand même, Madeleine ne pouvait s'empêcher de penser qu'on lui offrait sur un plateau une affaire unique, celle dont tous les flics du monde rêvent d'hériter une fois dans leur vie. À côté de ça, plus rien n'existait, ni l'insémination artificielle, ni la perspective d'une vie apaisée entre biberon et layette. Seul comptait le goût du sang, l'ivresse de la chasse. Salut Madeleine. Une main se posa sur son épaule et la fit sursauter. Perdue dans ses pensées, elle n'avait pas entendu Dominique Wu arriver. 2. Gaspard fut tiré de son sommeil par la sonnerie de son téléphone. Un rythme exaspérant de samba qui lui donna l'impression atroce de se réveiller en plein carnaval de Rio. Le temps qu'il ouvre les yeux et qu'il se saisisse de l'appareil, le répondeur s'était enclenché. Il tira les rideaux et rappela dans la foulée sans écouter le message. C'était Isabella Rodriguez, la sympathique cousine d'Adriano Sotomayor.
« Je suis en retard pour aller bosser »,
annonça-t-elle d'emblée. Gaspard entendait en toile de fond la rumeur urbaine « Made in New York », bourdonnement du trafic, effervescence, sirène de police. « Ce n'est pas le jour des enfants aujourd'hui ?» demanda-t-il.
« Noël, c'est demain »,
répondit la belle Latino. « Vous travaillez où ?»
« Je gère la boutique Adele's Cupcakes de Bleecker Street. Et aujourd'hui est l'un des jours les plus animés de l'année. »
Isabella avait tenu parole. Elle avait sondé les souvenirs de son mari à propos de la visite que leur avait faite Sean Lawrence.
« André a peut-être deux ou trois choses à vous raconter, »
confia-t-elle.
« Passez le voir si vous voulez, mais avant 10 heures, car il doit emmener les enfants chez ma mère. Et surtout, ne me les mettez pas en retard. »
Gaspard voulut en savoir davantage, mais Isabella avait déjà interrompu leur conversation. En raccrochant, il découvrit un SMS de Madeleine sur l'écran de son portable. « Je dois vérifier 2 ou 3 choses de mon côté. Retrouvons-nous à l'hôtel à midi. M. » D'abord, cette défection le contraria. Puis, il se dit qu'il espérait justement qu'elle prendrait ce genre d'initiative. Et il n'avait pas le temps de se lamenter s'il voulait attraper le mari d'Isabella avant son départ. Un regard à sa montre, un aller-retour sous la douche, un coup de peigne et une giclée de « Pour un homme », millésime 1992. Une fois dans la rue, il marcha jusqu'à Franklin Street, acheta des tickets de métro et prit la ligne 1 jusqu'à Columbus Circle, au sud-ouest de Central Park. Là, il changea de ligne et continua une 10aine d'arrêts jusqu'à la plus grande des stations de métro de Harlem, celle de la 125e rue, où, dans les années 1990, les artificiers avaient tagué des 10aines de rames de métro. Là aussi, où Beatrice Munoz avait choisi de mettre fin à ses jours. Il fallut à Gaspard moins d'un quart d'heure pour rejoindre Bilberry Street. Décidément, cette rue lui plaisait. Figée dans le froid mais inondée de soleil, elle respirait le parfum intemporel d'une New York idéalisée et nostalgique. Devant le numéro 12, la maison d'Isabella, un jardinier élaguait l'un des marronniers de la rue dont l'ombre des branches frissonnait sur le trottoir. « Entrez et faites comme chez vous !» l'accueillit André Langlois en lui ouvrant la porte. Gaspard retrouva les 3 enfants qu'il avait vus la veille attablés autour de la même table familiale. Mais cette fois, ils avaient pris place devant un copieux petit déjeuner. Granola, faisselle, ananas Victoria, kiwi jaune. En bonus, des rires, de la joie, de la chaleur. En fond sonore, un iPad branché sur WQXR diffusait la valse des fleurs de Casse-Noisette. Chez les Langlois, tout était prétexte à familiariser les enfants à la culture. « Alors comme ça, ma femme vous prépare du lait de poule pendant que je trime au bureau ?» plaisanta André en servant à Gaspard une tasse de café. Crâne rasé, musculature bodybuildée, la peau foncée et les dents du bonheur, André Langlois inspirait une sympathie immédiate. Plus jeune que sa femme, il portait un bas de survêtement et un t-shirt de soutien à la campagne présidentielle de Tad Copeland. Pour rester cohérent, Gaspard répéta ce qu'il avait raconté la veille à Isabella et se présenta comme un écrivain qui, lors de la rédaction d'une biographie de Sean Lawrence, s'était interrogé sur les zones d'ombre qui entouraient la mort de son fils. Tout en l'écoutant, André commença à éplucher une orange pour le plus jeune des bambins perché sur sa chaise haute.
« Je n'ai rencontré Lawrence qu'une seule et unique fois, mais je crois que vous le savez déjà. »
Gaspard acquiesça pour l'inviter à poursuivre.
« Pour être honnête, ma femme m'en avait déjà parlé. Je savais qu'ils avaient eu une aventure bien avant notre mariage. Alors forcément, je m'en méfiais un peu.
Mais cette défiance s'est atténuée lorsque vous l'avez vue. » Langlois approuva.
« J'ai vraiment eu pitié de lui quand il a commencé à nous parler de son fils. Il était complètement perdu, aux abois, avec une lueur de folie dans les yeux. Physiquement, il ressemblait davantage à un clodo qu'à un irrésistible Don Juan. »
André tendit quelques quartiers d'orange à son fils, puis donna une série de consignes à ses deux plus grands garçons, allant du brossage de dents jusqu'à la préparation du packed lunch qu'ils devaient emporter chez leur grand-mère. Sur le moment, je n'ai pas compris grand-chose à l'histoire que nous a raconté Sean sur ses liens avec le cousin Adriano, mais Isabella a accepté de le laisser fouiller la maison. André entreprit de débarrasser la table du petit-déjeuner, et machinalement, Gaspard lui donna un coup de main en mettant la vaisselle sale dans l'évier.
« Moi, je n'avais rien contre, » assura André Langlois. « C'était l'héritage de ma femme, après tout, et la succession avait été plus longue que prévu, mais j'ai conseillé à Isabella de s'éloigner avec les enfants, et c'est moi qui suis resté avec Lawrence pour le surveiller. »
Elle m'a dit qu'il avait emporté des documents. Comme la veille, Gaspard crut qu'il allait en apprendre plus, mais Langlois ne le laissa pas espérer longtemps.
« C'est exact, »
admit-il en sortant d'une poubelle chromée un sac en plastique rempli de détritus.
« Mais je ne saurais pas vous dire quoi. La chambre d'Adriano débordait de papiers et de dossiers en tout genre. »
Il noua le sac d'ordures et ouvrit la porte d'entrée pour aller le jeter dans le conteneur extérieur.
Mais ce n'est pas la seule chose qu'a emporté Sean Lawrence,
lança-t-il en descendant l'escalier du perron. Gaspard le suivit dans le jardin.
Sean Lawrence m'a demandé s'il pouvait jeter un coup d'œil à la voiture d'Adriano, une Dodge Charger qui était restée garée dans l'allée depuis plus d'un an.
D'un signe du menton, il désigna un passage en cul-de-sac perpendiculaire à la rue.
Je l'ai revendue l'été dernier, mais c'est une chouette caisse que personne n'avait entretenue depuis la mort du cousin. Lorsque Sean est venu, la batterie était à plat. Il a observé la Dodge, sous toutes ses coutures. Je pense que lui-même ne savait pas vraiment ce qu'il recherchait. Puis, comme pris d'une inspiration soudaine, il est allé au drugstore de la 131e. Il s'est repointé chez nous 5 minutes plus tard avec un rouleau de grands sacs poubelles. Il a ouvert le coffre arrière de la Dodge et a arraché le tapis qu'il a mis dans un des sacs en plastique. Puis, il est reparti, sans même m'adresser la parole.
« Papa ! Papa ! Sidney m'a tapé !»
cria l'un des garçons en déboulant de la maison pour se jeter dans les bras de son père.
« Vous avez laissé faire Sean sans rien lui demander ?»
s'étonna Gaspard.
« C'était difficile de s'opposer à lui, » expliqua André en consolant son fils. « Lawrence était comme possédé, comme s'il habitait sur une autre planète, à des années-lumière de la nôtre. Il portait vraiment sa douleur sur le visage. »
Déjà, le gamin avait séché ses larmes et brûlait de rejoindre son frère. André lui ébouriffa les cheveux.
« Personne ne devrait jamais avoir à perdre un enfant, » murmura-t-il, comme pour lui-même.
3. Dominique Wu aurait eu sa place dans un film de Wong Kar-wai. Volontiers dandy, l'agent du FBI portait toujours des costumes impeccablement taillés, des cravates tissées et des pochettes en soie. Ce matin, le regard dissimulé derrière des lunettes de soleil, il déployait sa silhouette élégante devant la ligne de gratte-ciel qui avait le bon goût d'arborer les mêmes teintes bleu métallique que son trench coat en cachemire.
« Merci d'être venu, Dominique. »
« Je n'ai pas beaucoup de temps, Madeleine. Hans m'attend dans la voiture avec les filles. Aujourd'hui, même le sable du jardin d'enfants est dur comme de la pierre. »
Il s'assit à côté d'elle sur le banc en gardant une certaine distance. Ses mains étaient gantées de cuir noir, très fin. Avec précaution, il sortit de la poche intérieure de son manteau une feuille de papier pliée en 4.
« J'ai fait les recherches que tu m'as demandées. Il n'y a rien de trouble à propos de l'assassinat d'Adriano Sotomayor.
« C'est-à-dire ? » ?»«
Ce con a voulu faire le malin en intervenant sans armes dans une querelle entre deux petits dealers. Le ton est monté, il s'est pris un coup de couteau dans la gorge. Fin de l'histoire. »
Ce dealer, c'était qui ?
Nestor Mendoza, 22 ans. Une petite frappe d'El Barrio. Irascible et impulsif. Il venait de purger 3 ans à Rikers.
Pourquoi n'a-t-on pas réussi à le serrer ?
L'Asiatique haussa les épaules. Parce qu'il s'est tiré, qu'est-ce que tu crois ? Il a de la famille à San Antonio, mais on n'a jamais retrouvé sa trace.
D'habitude, pour des tueurs de flics, on se montre un peu plus obstiné, non ?
On le coincera un jour ou l'autre, lors d'un contrôle routier. Ou on retrouvera son cadavre après une rixe, dans les rues de Little Havana.
Dis-moi plutôt pourquoi tu t'intéresses à la mort de Sotomayor. Wu était un agent avisé. Madeline savait très bien que, s'il acceptait de lui refiler quelques infos, c'était uniquement par utilitarisme. Parce qu'elle était une flic compétente et qu'il pensait que, si elle avait flairé une piste prometteuse, il en serait le premier bénéficiaire.
« Je crois que la mort de Sotomayor est liée à une autre affaire, » confia-t-elle.
« Laquelle ?»«
À toi de me le dire, » répondit-elle.
Wu n'aurait jamais fait le déplacement s'il n'avait pas eu plus de flèches dans son carquois.
« Tu penses à son frère, c'est ça ?»«
Son frère. Quel frère ?» Madeline sentit l'adrénaline monter en elle.
« Dis-moi ce que tu sais !»
s'agaça-t-elle. L'agent fédéral réajusta ses lunettes argentées. Chacun de ses gestes, de ses déplacements, semblait obéir à une mystérieuse chorégraphie dont on avait l'impression qu'elle avait été répétée à l'avance.
« J'ai découvert un truc étrange en grattant sur Sotomayor. Il avait un frère plus jeune, Ruben, un prof d'histoire à l'University of Florida. »«
Un demi-frère alors, tu veux dire ?»«
J'en sais rien. Le fait est qu'en 2011, Ruben Sotomayor a été retrouvé assassiné dans un parc de Gainesville où il avait l'habitude de faire son jogging. »«
De quelle manière ?»«
Version sauvage. Battu à mort, massacré à coups de batte de baseball. »
Wu déplia la feuille qu'il tenait entre les mains.
« On a arrêté un SDF qui dormait parfois dans le parc, Yanis Peraya. Il s'est défendu mollement. Le type était psychotique et passait d'hôpital en foyer depuis des années. Peraya a plus ou moins avoué et dans la foulée a été condamné à 30 ans de réclusion. Bref, une affaire sordide, mais rapidement bouclée. Jusqu'à ce que l'an dernier, Transparency Project décide de venir foutre la merde. »
L'organisation qui lutte contre les erreurs judiciaires ?
Ouais. Encore une fois, ils ont essayé de nous bousiller une procédure en trouvant une juge qui accepte de délivrer une ordonnance pour refaire des tests ADN plus précis.
Sous quel motif ?
Toujours le même discours. Des aveux qui auraient été extorqués à une personne fragile et les progrès de la science qui permettraient d'identifier un fragment d'ADN qu'on aurait laissé passer auparavant.
Madeline secoua la tête.
Quel progrès de la science en 4 ans ?
C'est des conneries, je suis d'accord. Enfin, pas tout à fait, quand même. Avec les nouvelles techniques d'amplification de l'ADN, on peut...
Je sais tout ça, le coupa-t-elle.
Bref, on a fait de nouveaux tests qui ont innocenté le SDF.
Madeline comprit que Wu ménageait son petit suspense.
Innocenté pour quelle raison ? Demanda-t-elle.
Parce qu'on a retrouvé sur le survêtement de Ruben un ADN qu'on n'avait pas relevé avant.
Et l'ADN était fiché, n'est-ce pas ?
Ouais. C'était même celui d'un flic. Adriano Sotomayor.
Madeline prit quelques secondes pour encaisser la révélation.
Qu'est-ce qu'on en a conclu, que Sotomayor avait trucidé son frérot ?
Peut-être, mais peut-être pas. Ça pouvait tout aussi bien être des traces de contact, qu'il est en plus très difficile de dater.
Tu sais si les deux frères se fréquentaient ?
Aucune idée. Comme entre-temps Adriano était mort, on n'a pas relancé l'enquête.
Donc, l'histoire s'arrête là.
Malheureusement. Maintenant, à ton tour. Lâche-moi un truc, Maddy. Dis-moi sur quoi tu enquêtes.
Madeline tint bon et secoua la tête. Pas question, pour le moment, de lui parler de Lorenz. Et encore moins du roi des Aulnes. Le dandy ne chercha pas à masquer sa déception et se leva en soupirant.
« Continue à creuser l'affaire Sotomayor, » lui conseilla Madeline.
Wu réajusta son trench coat et son sourire. Comme dans le plan d'un film, ses gestes donnaient l'impression de ralentir le temps. Il fit à la jeune femme un petit signe de la main et s'éloigna pour retrouver les siens. Avec le soleil de face et le Yumeiji stem dans le dos.